Voilà pour cette prise de parole d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles à l'issue de ce nouveau Conseil européen au sujet de l'aide à l'Ukraine et au sujet de la défense de l'Europe. Nicolas Tenzer, vous nous avez rejoint. D'abord sur l'aide à l'Ukraine, il y a un consensus, exception faite de la Hongrie. Sinon, les autres dirigeants européens se sont mis d'accord pour poursuivre l'aide à l'Ukraine. Et Emmanuel Macron a fait une annonce importante. Il a confirmé la présence de Volodymyr Zelensky la semaine prochaine. Il sera bien présent à Paris jeudi pour un sommet de la coalition des volontaires. C'est lors de ce sommet que va se dessiner ce fameux plan de garantie de sécurité. Alors, qui sera proposé par les Européens.
Je pense deux choses. Il y a une chose aussi, mais qui est liée effectivement à cette rencontre qu'a dite le président, c'est aussi le fait qu'il y a un modèle d'armée ukrainienne capable de se défendre qui va être mis en place. Ce qui veut dire que par rapport à un certain nombre de tentations de dire, mais peut-être que l'Ukraine devrait se désarmer. On sait que c'est la position de Poutine, on voit bien pourquoi. Vis-à-vis de même de certains, même aux États-Unis, qui disent, oui, mais peut-être qu'il faudra limiter la taille de l'armée ukrainienne. Non, les Européens sont derrière l'Ukraine pour l'armée jusqu'au bout, au-delà même des schémas de garantie de sécurité éventuelle, du déploiement probablement de troupes d'un certain nombre de pays volontaires, la coalition des volontaires, en Ukraine. Je crois que ça, ce sont les éléments tout à fait fondamentaux. Le deuxième élément, c'est quand même, je dirais, l'idée que dans la durée, l'Europe va investir, mais sur deux choses, parce que protéger l'Ukraine, garantir la sécurité de l'Ukraine, c'est aussi nous garantir nous-mêmes.
C'est aussi renforcer sa défense.
Voilà, c'est que, en fait, les deux ne sont pas disjoints. On ne peut pas du tout disjoindre le sort de l'Europe et le sort de l'Ukraine. En fait, le sort de l'Europe, c'est reprendre une phrase de l'ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, finalement, le sort de l'Europe se joue en Ukraine. Et je crois que c'est ça, cette réalité qui est perçue. Et derrière, je crois que ce qui est important dans le message du président, c'est que ces investissements dans la défense ne sont pas des investissements punitifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on ne va pas demander aux Français, aux Européens de manière générale, des sacrifices. Ce sont aussi quelque chose qui va profiter à l'économie. Et je crois que le lien qu'a fait le président entre la compétitivité, entre le besoin de trouver des financements nouveaux, de créer enfin, ça veut dire quand même, c'est un serpent de mer, on en parle depuis 10 ans, ce fameux marché européen des capitaux, notamment des capitaux risqueurs. Je crois que ça, ce sont des éléments qui vont de pair avec ce réarmement. Et que finalement, on va faire de l'Europe, grâce à tout cela, et un peu malgré nous, parce qu'on a eu malheureusement cette guerre, un continent de croissance et d'emploi.
Et il y a ce consensus au niveau de cette fameuse Europe de la défense, c'est ce que dit Emmanuel Macron, consensus sur le principe, parce qu'encore maintenant, faut-il discuter des modalités. Alors il a quand même dit deux choses, c'est qu'a été actée l'idée d'une préférence européenne, donc on arrête d'acheter les armes aux Américains notamment et ailleurs, on va désormais privilégier des achats en Europe, alors est-ce que ce sera une obligation ou non, bon là on attend encore de connaître les modalités, mais c'est quand même important de le préciser. En revanche, il a fixé un horizon dans 5 ans, ce fameux livret blanc sur la défense avec un horizon sur 5 ans. En revanche, sur le financement, ces fameux comment on va financer cette défense européenne, lui plaide pour un emprunt européen. Mais ce qu'il dit, c'est que pour l'instant, il va falloir convaincre les autres parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde.
Alors oui, c'est un financement à deux étages en fait. Il y a 800 milliards qui sont normalement alloués à l'armement. C'est même pas un réarmement, à l'armement de l'Europe et à la création d'une Europe de la défense. Ce qui veut pas dire, je le dis à chaque fois, c'est pas une armée européenne parce que les gens font la confusion. Il s'agit pas de mélanger tous les soldats. C'est une défense où il y a une coopération européenne plus forte. Ça, c'est la première chose. Avec un financement en deux étages. Un premier financement qui a été, je dirais, lancé par la Commission européenne, qui n'a aucune compétence, d'ailleurs, il faut le dire, en matière de défense. Donc, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est, d'une certaine façon, auto-nommée à la tête de ce dispositif de financement. Donc, 150 milliards d'euros qui seraient un emprunt européen et qui seraient mutualisés entre les différents pays. Et c'est là où ça achoppe, parce qu'il y en a certains qui sont d'accord pour cet emprunt, en disant il faut mutualiser il faut un système un peu mutualiste, et c'est le cas de Emmanuel Macron, ce qui est pas du tout surprenant parce qu'il a toujours été dans un esprit plutôt assez fédéral et puis toujours pour une plus grande intégration des Européens, ce qui est le cas de quelques autres pays, mais il y a vous avez des pays qui sont vent debout contre cela, aujourd'hui, en tous les cas, c'est le cas notamment des Pays-Bas, ce qu'on appelle des pays frugaux. C'est des pays qui, généralement, savent très bien compter, ont des budgets qui sont plutôt à l'équilibre, ce qui est évidemment tout le contraire de la France. Et puis le deuxième étage de la fusée, c'est 650 milliards qui serait effectivement qu'il faudrait dépenser pour qu'on ait une armée, enfin pas une armée, mais pour qu'on ait une défense.
C'est une enveloppe théorique.
À la hauteur. À la charge de chaque État membre. De s'endetter. Et alors, c'est très intéressant d'avoir entendu le président de la République ce soir là-dessus, parce que finalement, l'endettement, il vous dit que ce n'est pas un problème français, alors que c'est un problème majeur en France. On le voit, on est endetté jusqu'au cou, plus de 3 000 milliards d'euros d'endettement, mais il nous a fait une leçon ce soir, absolument extraordinaire d'ailleurs, mais un peu hors sol, comme si on pouvait continuer à s'endetter de toute manière, puisque les Américains sont beaucoup plus endettés que nous.
Alors justement,
ils ont une monnaie qui s'appelle le dollar.
On posera la question dans un instant à Geoffroy Roux-de-Bézieux, l'ancien patron du MEDEF, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, mais juste avant, j'aimerais qu'on prenne la direction de Bruxelles, où l'on vous retrouve, Thierry Arnaud, Mathieu Couache, vous avez suivi ce sommet européen aujourd'hui pour nous, et ce point presse à l'instant d'Emmanuel Macron. Il y a un message qui a été donné aujourd'hui par les Européens à Volodymyr Zelensky, c'est on ne lâche pas, on ne lâchera pas l'Ukraine, on continuera de soutenir l'Ukraine, et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky sera jeudi prochain à Paris pour un sommet de la coalition des volontaires.
Oui, exactement. C'est l'annonce faite ce soir par le président de la République. Jeudi à Paris, un nouveau sommet, un de plus pour accueillir le président ukrainien, mais pas seulement pour l'accueillir, bien sûr, vous avez compris, pour lui donner des gages très concrets du soutien de tous ceux qui seront autour de la table. Nous avons beaucoup travaillé, Français et Britanniques notamment, à expliquer le président de la République pour définir très concrètement les conditions d'application d'un cessez-le-feu, qui faisait quoi, qui garantissait la sécurité, et puis de manière générale, quels sont les moyens qu'on va mettre à la disposition de l'Ukraine pour garantir la paix et faire en sorte que si ce cessez-le-feu tient, s'il est prolongé ensuite par un processus plus durable, eh bien ça n'offre pas l'opportunité à Vladimir Poutine de se lancer dans une nouvelle conquête de l'Ukraine. Donc on va être dans le concret, on va finaliser un certain nombre de sujets, en particulier, je vous le disais, l'application et les modalités du cessez-le-feu. Qui fait quoi? Qui apporte quoi? Qui met quoi sur la table? Tout ça, ça va être évidemment au cœur de ce sommet jeudi. Vous voyez que le président de la République, qui s'entretient, il l'a rappelé quasi quotidiennement avec Volodymyr Zelensky et avec Donald Trump, veut continuer à pousser très fort le rôle de cette coalition des volontaires pour garantir que cette paix en Ukraine sera solide. Et il considère par ailleurs que sur l'Europe de la défense, Mathieu, eh bien, l'Europe, finalement, compte tenu des circonstances, avance aussi rapidement qu'elle le peut.
Oui, c'est montré plutôt satisfait le président de la République, de la satisfaction personnelle aussi pour lui, parce qu'il a répété, son entourage le fait régulièrement, que ça fait 7 ans, c'est vrai, qu'Emmanuel Macron demande une Europe de la défense plus forte, et il explique que nous n'avons jamais été aussi près qu'aujourd'hui, et que si les choses ne vont peut-être pas aussi vite que certains le souhaiteraient, eh bien elles vont tout de même assez vite, qu'il fallait digérer l'histoire, ce sont les mots du président, que des pays, c'est vrai, se pensaient protégés par le bouclier américain, et qu'aujourd'hui, eh bien, ils doivent revoir ces fondamentaux. Un mot aussi à une question qui a été posée à Emmanuel Macron sur, finalement, comment faire changer Vladimir Poutine d'avis. Eh bien, il dit, il faut tout simplement le dissuader des attaques. Si nous sommes crédibles en tant qu'Européens, eh bien ça l'incitera à infléchir sa décision, à être crédible. Eh bien c'est ce que tu disais, Thierry, c'est garantie de sécurité, s'assurer que la paix sera respectée, et donc eh bien à terme, que des troupes seront aussi présentes sur le sol ukrainien. Alors, pour l'instant, il n'a pas été question de ces troupes européennes sur le sol ukrainien, mais au-delà du financement, après cette question du financement, eh bien, cette question des troupes et des garanties de sécurité va évidemment revenir sur la table.
Et cette question du financement, bien sûr, elle sera au cœur des prochaines discussions européennes. Vous l'avez compris, dans l'immédiat, il y a un accord pour les prochaines échéances, les plus rapprochées au fond, mais s'agissant de ce nouvel emprunt à l'échelle européenne, le président de la République n'a pas caché qu'il y avait encore aujourd'hui de réelles divergences entre les Européens.
Merci Thierry Arnaud, merci Mathieu Couache et merci à Rémi Soula qui est avec vous. Bonsoir Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Bonsoir.
Ancien président du MEDEF, et Victor Hérault nous a rejoint. Bonsoir. Journaliste politique Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous. Et Ségolène Royal est de retour avec nous. Rebonsoir Ségolène Royal. On va évoquer la situation sur les retraites dans un instant, le conclave sur les retraites. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre réaction à ce qui s'est dit aujourd'hui à Bruxelles, notamment ces milliards d'euros qu'il va falloir aller chercher pour financer notre défense, pour se réarmer. Et Emmanuel Macron disait voilà, que lui, il aimerait qu'on aille vers un emprunt, un nouvel emprunt européen, comme on l'a fait pendant le Covid, sauf que bon, ça ne fait pas consensus au sein des 27. Que répondez-vous à cela? Est-ce qu'il faut s'endetter encore davantage?
Il a dit deux choses. Il est d'abord pour manquer de croissance et de compétitivité en Europe. Bon, ce n'est pas un scoop, Mario Draghi, on le sait tous, mais c'est quand même un peu le symbole de notre difficulté globale. Puis après, il a dit qu'on n'était pas endetté. Alors, ça ne vaut pas pour tout le monde. Nous, malheureusement, Français, on est les mauvais élèves de la classe avec quelques autres pays. Mais effectivement, si on prend la moyenne de l'endettement, c'est-à-dire qu'on a les pays du Nord qui sont peu endettés, les pays du Sud en général sont très endettés, effectivement, en moyenne, on est moins endettés que les États-Unis. Et donc, on pourrait, au niveau européen... Mais ce qui va se passer, on le sait déjà, c'est que les pays du Nord d'Europe vont dire bah, « commencez par résoudre vos dettes avant qu'on emprunte ensemble, parce que sinon, c'est les mauvais qui tirent les bons vers le bas ». Donc la suite de l'histoire, elle est déjà un peu écrite. On l'avait vu pendant le Covid, on l'avait vu au moment de la crise grecque. C'est toujours l'éternelle histoire des mauvais élèves qui essayent d'entraîner
l'ancien patron du MEDEF, vous dites s'endetter, oui, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et peut-être qu'il faut déroger à une forme de rigueur budgétaire.
Une fois que j'ai dit ça, on peut essayer de considérer que certaines dépenses militaires, notamment la dissuasion nucléaire, peuvent être sortis, je dirais, des critères de Maastricht, parce que ce sont des dépenses exceptionnelles. Mais ça ne doit pas nous exonérer des efforts qu'on doit faire. C'est presque d'autant plus qu'on a besoin de se défendre, qu'on a besoin de se réarmer. Il faut regarder la situation en face et parler en vérité. Il faut le dire, hein, le président de la République, depuis 7 ans, a fait une politique pro-business que nous, on a défendue. Mais il y avait un angle mort, qu'on connaît bien, qui vient d'ailleurs de la commission Attali, et qui est l'endettement. Parce qu'il a toujours pensé qu'on réglerait le problème par la croissance. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de... Vous savez, c'est comme un chef d'entreprise qui dit soit j'augmente le chiffre d'affaires, soit je baisse les coûts. Il faut toujours faire les deux en même temps. Et lui, il n'en a fait qu'un. Et comme le chiffre d'affaires n'a pas assez augmenté, en réalité, la croissance n'a pas été forte, eh ben, on s'est retrouvé rattrapé par la patrouille, avec l'excuse du Covid, etc. etc.
Et est-ce qu'à contrario, ce contexte international peut être une opportunité, en l'occurrence, pour nos entreprises, notre industrie militaire?
Oui, alors, oui, si vous voulez. D'ailleurs, c'est presque, j'allais dire, presque cynique de le dire, mais la réalité, c'est qu'on a deux grands points forts, à part le luxe, peut-être l'aéronautique, c'est la défense et le nucléaire. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, on était en train de défendre comme des chiens. Moi, je me suis allé à Bruxelles pour dire ne sortez pas le nucléaire du mix énergétique et essayez de continuer à prêter de l'argent à la défense. Et tout le monde était contre. Tout le monde était contre. On parle d'à peine 3 ans. Le retournement est quand même...
À cause des Allemands, notamment.
De tout le monde. Non, bah, Christophe, de tout le monde, si vous voulez. Le nucléaire, c'était les Allemands. Mais l'investissement dans la défense, je rappelle quand même que... C'est anecdotique, mais une grande prise française devait acheter un bâtiment pour son siège et les banques européennes lui refusaient le prêt parce qu'elles faisaient de l'armement. On parle de ça, c'est une anecdote qui a moins de deux ans. Alors heureusement, l'affaire d'Ukraine et puis Trump nous a tous réveillés un peu brutalement. Mmh. Et disons-le aussi, hein, il faut aussi rendre justice, le réveil français en termes de budget militaire ne date pas de 2022. Oui. Là aussi, hein, il y a des choses à dire en positif. Après la démission de Pierre de Villiers, on a commencé à réaugmenter. On était à un point très très bas et qui venait de ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Donc, puis dernier commentaire quand même, je me permets, moi je suis ancien commando de marine, donc j'ai un petit avis là-dessus. Il n'y a pas que le PIB qui compte. Parce qu'on peut aligner les tanks, les canons, les chars, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre le risque de les servir.
Mais c'est ce que disent tous les militaires qui sont en place.
Le recrutement, non, et le réarmement moral. Les Ukrainiens que tout le monde donnait perdants, c'est aussi leur morale qui les a aidés. C'est aussi parce qu'ils se battaient pour leur pays. Et ça, c'est évidemment le plus difficile à décréter.
Le réarmement moral.
Ouais, je crois que ça existe.
Sans service militaire, sans mobilisation, sans...
C'est service militaire volontaire, ce que les Suédois ont fait.
Les Suédois, c'est-à-dire réarmement moral, qu'est-ce que vous appelez
ben, c'est ce sentiment d'appartenance, cette capacité à dire « oui, je suis prêt à prendre un risque ».
Patriotisme, en fait.
Oui, enfin, on peut l'appeler plein de manières, mais c'est quand même un aimant. Encore une fois, souvenez-vous, Kiev, enfin, l'envahissement de Kiev, on donnait 3 jours à la Russie, enfin, 3 jours à la Russie pour envahir Kiev. Personne n'imaginait que, avec la différence entre les deux armées,
ça, oui.
Et ils se sont défendus parce que c'est la liberté. Moi, j'avais été à Kiev, juste dernière anecdote, en juillet 21. Je suis reçu par Zelensky, je suis reçu par le maire de Kiev, vous savez, l'ancien boxeur. Il me parlait en russe, moi je parle pas bien russe, donc c'est traduit. Puis à un moment, il s'adresse à moi en anglais, dans un anglais un peu difficile, et il me dit « We don't want to go back to USSR. » On veut pas retourner. C'est pas une question de naïveté, c'est une question de liberté. Donc les gens se battent pour la liberté. Et donc ça, ça ne se décrète pas à l'Élysée, ça ne se décrète pas sur le plateau de BFM, c'est très difficile.
Donc un réarmement civique, vous dites. Effectivement, il a été question de réarmement de la défense, mais de réarmement économique aussi, vous l'évoquiez il y a un instant, on va réécouter Emmanuel Macron à ce sujet.
Eh bien, il est clair que nous devons avoir plus de croissance, plus de richesse en Europe, à la fois pour financer ces dépenses et nos modèles sociaux. Et donc la nécessité de l'Europe, c'est d'avoir plus de croissance. Et donc on a passé en revue à la fois les propositions faites par la Commission, en lui donnant des mandats clairs sur plusieurs sujets, et nous avons eu une discussion avec la présidente de la Banque Centrale Européenne et le président de l'Eurogroupe.
Il faut améliorer aussi la croissance. Quand on Bien parle sûr. De réarmer l'Europe, ce n'est pas uniquement en matière de défense, c'est aussi en matière d'économie. Il va falloir faire aussi répondre à cette compétitivité internationale et à ce contexte extrêmement tendu actuel.
Bien sûr, oui, mais l'indépendance en matière de défense de l'Europe, c'est une évidence, il faut la faire. Mais pas pour envoyer des soldats, je pense. C'est-à-dire que c'est une force de dissuasion qui permet précisément d'empêcher la guerre. Il ne faut jamais perdre de vue que la dissuasion, c'est ce qui empêche le pire, précisément. C'est ce qui empêche la guerre et donc ce qui construit la paix. Et effectivement, il y a un impact sur l'industrie. Mais quand on voit aujourd'hui que la part de l'industrie dans le PIB est descendue à 10%, et que effectivement tous les industriels ont tiré la sonnette d'alarme, c'est un vrai problème. Et la seconde chose, ce que dit la parole populaire. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent, mais attendez, il n'y a plus d'argent, mais quand il s'agit des armes, on en trouve toujours. Et donc, la question de la cohésion nationale qui a été évoquée, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent, il faut des explications sur le montant des chiffres, sur la stratégie, sur les objectifs, parce que sinon, les gens vont se détourner de cet effort. Ils ne vont pas comprendre. Et surtout lorsque l'on considère aujourd'hui que la croissance économique, c'est à la fois l'investissement économique. Donc la question du prix de l'énergie est absolument cruciale. Quand on voit aujourd'hui que les Espagnols sont sortis du marché européen de l'énergie et ont une énergie pour les artisans, pour les boulangers, par exemple, 10 fois moins chère que celle qui est en France. Donc ça, c'est une question que je répète à chaque fois, mais je pense qu'il faut qu'elle soit posée. C'est une question majeure. C'est l'investissement dans l'humain. Donc c'est pour ça que je pense que tout ce qui fragilise et tout ce qui déstabilise le modèle social français ne va pas dans le sens de la croissance. Et que cette fiction qui consiste à dire on va faire des économies là pour injecter ailleurs, non, parce que tout ce qui précarise et qui déstabilise les salariés fait s'effondrer aussi la rentabilité horaire du travail. Et puis troisièmement, c'est l'investissement dans la lutte contre les dégâts climatiques. Et on sait qu'aujourd'hui, le coût économique des dégâts climatiques est absolument considérable, ne va cesser d'augmenter. Et donc s'il y a aussi des investissements à faire dans des filières industrielles, c'est les filières de la transition énergétique.
C'est intéressant ce que vous dites, Ségolène Royal. Il ne faut pas détourner les Français de cet effort. Il faut avoir leur consentement à cet effort. Il faut maintenir cette cohésion nationale.